Bonjour mesdames, messieurs, mon nom est Danny Pau, bienvenue à l'émission Place publique, édition du mardi 2 mai. Aujourd'hui, nous recevons Mme Wendy Paradis, responsable de l'accompagnement des communautés chrétiennes, et M. Guy Lagacé, prêtre coordonnateur de la pastorale d'ensemble. On a des choses vraiment très intéressantes à vous mentionner. Alors, je reçois Mme Paradis, Wendy Paradis, bonjour, bienvenue à l'émission Place publique.
Bonjour.
Bonjour également à M. Guy Lagacé.
Bonjour.
Donc, vous êtes ici, entre autres, dans le cadre du 150e anniversaire du diocèse de Rimouski, mais aussi en même temps pour donner de l'information aux gens. Je vais vous demander d'abord et avant tout, qu'est-ce que vous faites, entre autres, dans le cadre de vos fonctions, Mme Paradis?
Alors, moi, je suis responsable de l'accompagnement des communautés chrétiennes. Alors, il faut aussi savoir que le diocèse compte 97 paroisses sur une très grande étendue. Et il faut voir aussi que le Rimouski, c'est le tiers en termes de population du diocèse.
C'est important de le dire parce que quand on parle du diocèse, on a toujours l'impression que c'est uniquement Rimouski, mais c'est tellement pas ça.
Oui. Alors qu'on a plus de la moitié des paroisses qui ont moins de 500 personnes. Mmh. Alors, ils ont besoin aussi d'être accompagnés, soutenus, sachant bien aussi que au niveau de l'organisation même, qu'un prêtre, ben, il peut avoir 17 paroisses sous sa responsabilité. Il faut aussi soutenir les équipes pastorales, prêtres et agents de pastoral, ainsi que les gens, les baptisés, qui se sont engagés aussi à la vitalité de leur communauté.
Et vous, M. Lagacé?
C'est un poste important. C'est un poste qui nous oblige à penser régulièrement quelles seraient les meilleures orientations qu'un diocèse peut se donner, des orientations pastorales, se donner une vision. Parce que vous savez que ça change. La société a changé beaucoup depuis une cinquantaine d'années, mais elle a changé beaucoup notre Église depuis une cinquantaine d'années. C'est important d'avoir une vision, savoir où on va. Et je pense que le coordonnateur, c'est celui qui a une certaine responsabilité de réflexion, mais c'est surtout toujours vu comme un agent de recherche.
Un agent de recherche.
Je suis encore toujours un peu insatisfait de ce qui se vit. Je ne dis pas que je dis ce qui se vit, mais je veux toujours aller plus loin.
Ça comprend.
Alors, c'est la vie. Alors, depuis une quinzaine d'années que je travaille sur ça, sur la vitalité des communautés paroissiales, parce qu'on est dans une région du Québec où les ressources financières humaines souffrent de pénurie. Comment faire dans notre Église que ça soit vivant?
Elle passe par où, cette vitalité-là?
Elle part d'où, la vitalité? Elle part des personnes d'abord. Pour avoir confiance en toute personne, elle part des personnes qui sont baptisées, les baptisés, vous le voyez, des gens qui croient à Jésus-Christ, elle part de là. Elle parle de la méditation de la parole de Dieu, elle parle de la parole de Dieu. Mm-hmm. C'est comment faire en sorte que la parole de Dieu soit connue, qu'elle reste vivante.
Donc,
travailler dans ce sens-là.
Continuer à la diffuser également, cette parole-là, Mme Paradis.
Tout à fait, c'est la diffuser, mais aussi de trouver les moyens pour se mettre ensemble, pour pouvoir la partager, l'échanger. Vous savez, j'ai une grande préoccupation pour les petites paroisses, bien sûr, c'est que quand elles ont perdu la station-service, le dépanneur, la caisse populaire, et ainsi de suite, les deuils, nous en avons vécu plus d'un. Et quand ils pensent, eux, à la communauté chrétienne, c'est des gens qui sont intéressés à serrer les coudes pour dire, ben maintenant, est-ce que nous, on a aussi cette capacité-là de se rassembler? C'est ça que les communautés sont vieillissantes, parce que les petites paroisses se vident et par en haut et par en bas, je veux dire, les plus jeunes quittent, ils ne reviennent pas. Les gens plus âgés vont aller vers des endroits où
il y a plus de services.
On était en tournée dans le diocèse et quand il y a quelqu'un, ça nous a toujours frappé, il y a quelqu'un qui s'est mis debout et a dit lors d'une assemblée, il a dit, nous autres, on est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est beaucoup d'espérance pour nous en ce sens-là, c'est que pas penser qu'ils sont abandonnés, qu'on puisse aussi continuer de les accompagner aussi.
Quand vous avez aussi en même temps, vous avez besoin de ces gens-là et ces gens-là ont besoin de vous également. Alors comment on fait justement pour c'est vrai que les petites communautés, c'est pas du tout la même chose que dans les centres moyens ou les grands centres. L'Église a beaucoup, on parlait tout à l'heure avant d'aller en monde, que l'Église avait changé, que l'Église a évolué. Est-ce qu'elle a évolué dans quel sens? Et est-ce que la population a la même vision que vous?
Moi, j'ai envie de vous dire ceci. Cette année, moi, ça fait 46 ans que je suis prêtre. Et quand j'étais ordonné prêtre, c'était une église qui était très bien structurée, etc. J'étais le 239e prêtre. Actuellement, il reste à peine 70 prêtres, je pense, de ça. Moi, l'évolution, je la vois dans la prise en charge des communautés par des laïcs. Mm-hmm. J'aime pas le mot laïc, j'aime dire les baptisés. C'est, de toute façon, ces personnes-là qui sont capables de donner de la vie. Il y a une évolution, il y a un changement, c'est heureux, mais faire en sorte que ces personnes-là ne soient pas seulement des consuméristes, des personnes qui viennent chercher des services à l'église, mais qui ont à cœur que la communauté soit vivante pour être témoin de Jésus. Mmh. On est des chrétiens, on est des catholiques, il ne faut pas avoir peur de dire notre foi, c'est de les rendre autonomes aussi dans notre foi. On se fie trop sur les prêtres, on a prêtre ou à peu près pas.
C'est une réalité.
C'est une réalité. C'est dans ce sens-là qu'il y a une grosse évolution et on a toujours travaillé dans le sens vous êtes capable de prendre en main votre destinée, d'être capable de prendre en main votre paroisse, même si vous n'avez pas de curé pour le moment pendant des mois de temps. Vous êtes capable. La parole de Dieu appartient à son curé. La parole de Dieu appartient au peuple de Dieu.
Est-ce que vous avez un message particulier que vous lancez, par exemple, aux jeunes, quand on parle de laïc, bon, vous aimez pas ça, de baptiser, disons. Est-ce que vous avez des façons de faire pour approcher les jeunes, pour leur parler de la religion, de la parole? Je vous vois sourire, Mme Paradis.
C'est que, lorsque, justement, on est sur le terrain, c'est ce que les gens, c'est qu'ils nous demandent, les recettes. Comment on peut faire pour faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui puissent... On ne peut plus penser à l'Église en termes de masse. Il faut penser maintenant en termes de petits groupes, de petits noyaux, des gens qui partagent, qui veulent vivre la même chose au même moment. C'est beaucoup dans ce sens-là. On voit des parents qui accompagnent leurs jeunes au niveau de la formation à la vie chrétienne, au niveau de la catéchèse. Ben, ils se créent des liens, ils se créent des petits noyaux-là. Mais il ne faut pas penser que tout se passe en présence dans l'Église, à la messe du dimanche. Souvent, c'est le reproche qu'on dit, bon, on ne les voit pas. Mais pendant ce temps-là, ces jeunes-là, ils sont justement engagés sur le terrain auprès des plus pauvres en termes de projets qui développent la solidarité. Et ils sont là, les jeunes, mais on a toujours tendance, le fait de ne pas les voir assis sur les mains d'église le dimanche, qui ne sont pas là.
C'est peut-être notre imaginaire qui nous joue des tours. Hein? On n'est pas nécessairement tout le temps sur le terrain aussi. Et c'est important, on en parlait aussi tout à l'heure, de démocratiser l'église, que l'église se présente sur le terrain, que vous soyez ici à la radio aujourd'hui, c'est bien, parce qu'on peut faire des mises à jour, on peut dire aux gens ce que vous faites dans la vie, on peut dire aux gens que la parole, comme vous l'avez si bien dit, Mme Paradis, elle est encore là, mais pas nécessairement sous la même forme traditionnelle.
Quand on a parlé de démocratie, ça, c'est un terme qui fait peur parfois dans l'Église.
Ah oui?
Oui,
pourquoi?
Je sais pas tellement. Il y a de la démocratie dans l'Église, mais on a vécu un système qu'on disait hiérarchique, etc. Ça prend toute une conversion au niveau du cœur, au niveau de sa mentalité, pour les prêtres en particulier, de voir que l'Église, c'est tout le peuple de Dieu, c'est pas juste une certaine catégorie. La démocratie, c'est important parce que, je me dis, on permet au peuple de Dieu de parler. Je me souviens dans les rencontres qu'on a faites, parce qu'on a fait beaucoup de rencontres dans les paroisses, on disait aux gens, dites-le ce que vous attendez de votre Église. Dites-le ce que vous attendez comme changement. Dites-le vos attentes. Mais souvent, ils n'ont pas été préparés à ça, ils n'ont pas été éduqués à cela. Ça a été... C'est tout un cheminement qu'il doit se faire. Puis on ne veut pas notre modèle, on a un modèle que nous traînons depuis des siècles. Puis changer ce modèle, donc ça va prendre du temps. Comme ça va prendre du temps de changer le modèle de fonctionnement dans nos communautés paroissiales.
Quand vous consultez les paroissiens, qu'est-ce qui ressort de quand vous leur demandez vous attendez quoi de votre église? On vous répond quoi à cette question-là?
En fait, c'est comme s'ils sont surpris, parce que il y a l'idée que les gens avaient l'habitude aussi de dire ben, « Dites-moi, M. Curé, quoi faire, qu'on va le faire.
Ben, »
Et
ça,
là,
c'est
il y a un renversement où il doit avoir une prise en charge. Depuis les années 2000, on a été avec un grand projet qu'on appelle un synode, mais ça a été lors de la consultation où toutes les paroles du diocèse ont fait des mémoires, ont pris parole sur l'avenir de leur communauté, comment ils voulaient vivre ça. Et ça a été des efforts parce qu'on est dans l'habitude de se faire dire quoi faire. Et là, on dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez?
Mais il y avait quelque chose de réconfortant là-dedans aussi.
C'est sécurisant.
Oui.
C'est sécurisant. On n'aime pas ça, vivre dans l'insécurité. Hein? Puis, si vous regardez ce qui se passe dans les... C'est pour ça que c'est lent actuellement. Parce que le chanois de grand-maison, vous avez dit un jour, ça prend toute une génération pour passer à un autre modèle.
Ouais.
Hein? Puis, moi, j'ai ma petite village, je vois ça comment ça va. J'étais curé souvent aussi. J'ai toujours trouvé que c'est, pour moi, c'est ça. Ça me semblait évident, mais pour les gens, faire des changements drastiques, c'est une. Les paroisses, quand on prend conscience, vous pouvez avoir vu, c'est une célébration qui avait été une fois par deux semaines. C'était tout un changement qu'on leur demandait. Ils étaient habitués à chaque demande d'avoir. Ça se fait petit à petit. Mais il faut qu'ils soient accompagnés.
Mm-hmm.
Il faut qu'ils soient accompagnés des communautés. Et personne ne va accompagner.
Et vous aussi, vous avez besoin d'être accompagné. C'est là où ça change un peu, là. C'est-à-dire que vous avez, quand je dis vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de gens pour propager la nouvelle, propager l'évangile, la pastorale. Vous avez besoin de ces gens-là. C'est les rôles ont changé, là. C'est le moins qu'on puisse dire.
On est chanceux quand même avec notre diocèse parce qu'on a connu à l'université où on avait la possibilité d'avoir de la formation en théologie ou en sciences, en animation pastorale. Et bon, maintenant, ça n'existe plus à l'écart. Mais on s'est donné, nous, comme diocèse, un institut pastoral qui forme des gens au niveau d'un certificat, mais qui forme aussi des gens dans leurs habiletés, dans leur capacité aussi de prendre en charge, que ce soit au niveau de la parole, que ce soit dans différents, bon, pour les catéchèques, entre autres, qui elles, ont, tout d'un coup, deviennent responsables de donner de la catéchèse alors qu'ils ne connaissaient rien de ça.
Mm-hmm.
Et par cet institut-là, on forme des gens aussi. Et c'est là l'aller-retour. Nous, on dit d'être capable, mais on est capable aussi de vous donner la chance de vous former, puis de développer avec leurs dons. Il y a des gens qui ont des habiletés, sauf que quand ils ne sont pas interpellés, ils ne les mettent pas à profit.
C'est vrai, effectivement.
La vitesse que vous avez dit, c'est que il faut redonner confiance aux personnes. Il faut leur donner confiance et leur faire découvrir leurs compétences. Ils sont tous compétents, ces personnes-là. Ils n'ont pas eu toujours la possibilité de faire éclater leurs compétences parce que c'était d'autres, toujours quelqu'un d'autre qui le faisait.
Mm-hmm.
Quand on a fait la tournée des paroisses, on a fait la tournée de quatre paroisses, c'est trois, quatre fois qu'on a fait le diocèse depuis quelques années. On sait pas mal de quoi on parle, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de compétences, puis il faut les valoriser dans leurs compétences. Ces gens-là sont capables. Mais j'avais dit à quelqu'un, ta compétence, c'est peut-être la dinguerie du presbytère ou de l'église le dimanche avant la messe.
Pourquoi pas?
Puis il a dit, je suis content, vous me dites ça, c'est vrai, je suis capable de faire ça, puis ça me valorise, moi je suis capable de faire ça.
Ça me fait une anecdote, c'est que lors d'une tournée, ce qu'on demande autant, c'est de tenir une assemblée paroissiale dans votre milieu pour prendre parole sur l'avenir de votre communauté. Et on disait, là, vous savez, tout le monde qui est assis ici, est capable de faire quelque chose. Alors, il y a une madame avec 87 ans qui s'est même dit, vous savez bien, à mon âge, j'en ai fait déjà beaucoup, elle m'a dit, tout ce que je peux faire, c'est du quelqu'un. Ben, super! Après une célébration, qu'est-ce qu'il y a de bon? C'est de partager un café avec quelqu'un. Et là, on est en train de dire qu'elle-même, si elle a 87 ans, elle est capable. Alors qu'un autre de 16 ans, on est capable de lui dire aussi qu'il y a une place et qu'il peut faire quelque chose.
Ce que je trouve intéressant, c'est
cet espace-là.
C'est un espace, mais c'est aussi un esprit de grande solidarité.
Oui, absolument.
On s'arrête le temps d'une pause et on revient tout de suite après.
Gagner la maison de la Fondation Maurice Tanguay, Nouveau Climat 2.0, ou recevoir un demi-million de dollars. Simplement acheter votre billet chez Ameublement Tanguay, dans les restaurants normandais ou pharmacies Brunet participantes, chez La Tulipe ou sur maisontanguay.com. Aussi à gagner, une Mercedes-Benz GLA 250 offerte par Mercedes-Benz de Québec. En tout, 25 gagnants se partageront plus de 700 000 $ en prix. La maison de la Fondation Maurice Tanguay pour le bonheur des enfants handicapés.
chez nous. La référence pour trouver votre VR ou votre roulotte, c'est Caravane Rimouski et Caravane Bécomo. Du plus léger au plus luxueux, les meilleures marques et surtout du service. Beaucoup de service. Rabais incroyables, autant dans le neuf que dans l'usager. Et encore quelques unités 2016 laissées à prix de liquidation. Caravane Rimouski et Caravane Bécomo. Les meilleurs prix et toujours le meilleur service. Garanti.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour saluer notre bon ami Archibald Théodore Bouvier qui nous a quittés. Le fils de M. Bouvier voudrait nous adresser quelques mots.
Merci. Je me rappelle quand j'étais petit, on écoutait souvent la radio ensemble dans l'auto. Je me rappelle que dernièrement, il me parlait souvent de Julien Tremblay.
Oui, l'animateur de Retour à la maison.
Oui.
Ah, c'est quand même.
C'est ça. Je m'en parlais parce que...
En onde du lundi au jeudi, de 15h30 à 18h.
Ah, c'était le vendredi à 16h. Je voulais surtout dire que...
Merci. On va maintenant faire la prière pour M. Bouvier, mais surtout pour ses Carmen.
Quoi?
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ses Carmen.
Profitez du retour à la maison de ses Carmen. Avec moi-même, Julien Tremblay, sur les ondes 96.5, ça va me faire plaisir de vous accompagner dans votre fin de journée. À bientôt!
Il est 11h48. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Mme Wendy Paradis, responsable de l'accompagnement des communautés chrétiennes, et M. Guy Lagacé, prêtre, coordonnateur de la pastorale d'ensemble. Et d'ailleurs, je vais vous relancer là-dessus, M. Lagacé, parce qu'on en parlait pendant la pause, justement, de comment intégrer ce changement-là, ce changement profond qui a commencé à s'opérer et qui va continuer à s'opérer également au cours des prochaines années.
J'en avais parlé un peu tout à l'heure, dans le sens qu'on fait le 150e, parce que l'émission est dans le cadre du 150e,
oui.
On sait qu'il va y avoir des belles choses, on va être content, on va être fier de ce qu'on a réalisé, etc. Mais il ne faut pas oublier, à travers cette fierté, qui est tout à fait légitime, que demain, elle ne sera plus pareille. On vit un changement drastique au niveau social, on vit un grand changement au niveau de notre Église. Une Église qui veut mettre de l'avant la participation des laïcs dans l'édification. Dans le fond, l'Église est là pour en servir l'Église et pour leur se glorifier. Mm-hmm. Je dis, c'est d'habiliter des personnes à être des témoins de Jésus-Christ. J'ai fait une émission, tout le monde en parle, dimanche soir, et puis surtout la madame qui nous disait tout ce qu'elle faisait auprès des plus démunis, etc. Mais ça, c'est un appel qui nous est lancé dans notre Église. Moi, c'est pas qu'il y ait 50 prêtres ou 30 prêtres dans le diocèse qui m'intéressent. C'est de savoir comment on va rendre les gens responsables de l'Évangile qu'ils portent en eux, de leur baptême. Ça, il y a un grand changement à faire là-dessus, puis on n'est pas assez conscient du changement.
Pourtant,
ça va demander beaucoup d'abnégation. C'est quelque chose de dire non.
Ça va demander de l'abnégation de la part de qui?
De la part de tout le monde. De la part des prêtres qui sont les leaders, de la part des agents et des agents de pastorat, de la part de l'évêque, de la part de toute personne qui croit à l'avenir. Mmh. Moi, ma source d'espérance, là, je suis volontaire, toute personne a des belles choses en elle qu'elle est capable d'exploiter pour rendre un message. Le message qu'on porte, c'est un beau message. Un message d'amour, pas un message moral, c'est un message d'amour, d'engagement vers l'autre.
Mais est-ce qu'on a tardé à procéder à ces changements-là? C'est-à-dire qu'il y a longtemps qu'on a dit que les prêtres, il y en avait moins. Même chose pour les religieuses. On a parlé de 1973, tantôt pendant la pause, on avait déjà commencé à parler de ça. Est-ce qu'on a tardé un peu à opérer ces changements-là? Ou à un moment donné, on s'est réveillé et on s'est dit, oups, on appuie sur le piton panique et puis il faut qu'on fasse quelque chose. Là.
Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on veut voir, ce qu'on veut pas voir.
Oui, absolument.
On en a parlé. Le diocèse, je pense qu'elle fait son travail de ce côté-là. Est-ce qu'on a voulu entendre? Non, parce que souvent on dit, faites venir des prêtres, il y en a plein, là, des Africains. Ou des... Bon, actuellement, mon diocèse, on compte aussi sur la participation de d'Africains et de Colombiens. Ils disent, faites venir, mais est-ce que c'est par là que tout va se passer, tout va se régler? Ça, on en est moins sûr, parce que financièrement, même s'il y avait un autobus de France, on n'est pas capable de les payer. Mm-hmm. Ça, c'est déjà réglé. c'est une façon de faire de l'avenir. Pendant ce temps-là, moi, je n'ai pas besoin de m'impliquer et de m'engager. Vous savez, dans le projet qu'on a porté depuis 15 ans, c'est aussi de dire, est-ce qu'il peut y avoir des veilleurs dans chacun des milieux? Est-ce que, comme des bons sages, on a souvent parlé, mais tu sais, que chaque village doit avoir ses sages.
Ah, son samaritain.
Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent veiller sur l'avenir de la communauté, continuer d'être témoins, de dire que oui, on peut s'assembler pour prier, mais aussi pour vivre la solidarité, vivre la pauvreté? Est-ce qu'on se préoccupe, et ça, dans les assemblées paroissiales, souvent on se dit, ben, spécialement, il y a des gens ici qui sont pauvres, là, les gens, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Déjà, de poser un regard sur notre voisin, parce que notre voisin a besoin de temps en temps d'aide. Et ça, c'est chrétien.
Oui, puis il faut dire aussi qu'on est dans une société de plus en plus individualiste. Hein? On ne se le cachera pas. Donc, il y a ça également qui n'est pas toujours évident. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe chez le voisin, on ne sait pas ce qui se passe à côté. On le sait de moins en moins, malheureusement.
Oui, mais au lieu d'ajouter à cela, ça va prendre des leaders. Toute communauté, si petite soit-elle, a besoin d'une personne qui assume un leadership pour rappeler aux personnes les qualités, les compétences qu'ils ont. Tout seul, on s'en sert tout seul. Dans le monde dans lequel, surtout, l'Église catholique, elle met beaucoup l'accent sur la communion, c'est de vivre ensemble. C'est pas facile de vivre la communion, mais on a besoin de personnes qui vont éveiller d'autres personnes. Autrefois, ce qui est beaucoup sur le prêtre, mais ça arrête. On n'est plus dans ce monde-là. Moi, je me dis, les gens sont assez conscients qu'on est en train de passer d'un monde à un autre. Mmh. Autant que fier, je suis fier, nous, l'Église. Si on a de la misère avec ça. Parce qu'on a l'habitude de monde à être des consuméristes. On avait consommé des biens à l'Église. Là, maintenant, il ne s'agit plus de consommer des biens. Il s'agit de faire voir ces biens-là.
Mais vous, en tant que prêtre, est-ce que vous avez toujours eu cette préoccupation-là ou vous êtes passé par ce changement-là?
Ben, disons que pour les gens me connaissent, j'ai toujours été un petit peu critique. Je suis encore très critique. J'ai été vicaire à la cathédrale dans les années 71. Déjà, cette façon de faire ne me convenait pas. J'avais dit à Monseigneur Gilles Ouellet, moi, je ne veux plus rester en paroisse comme c'est long. Je veux aller dans le monde d'enseignement. J'étais dans le monde d'enseignement pendant un moment. Depuis que je suis revenu à l'université, elle le sait, je suis un gars qui remet toujours en question. Je ne dis pas que j'ai les réponses, mais je ne me satisfais pas facilement.
On revient à ce que vous disiez tout à l'heure.
C'est important. Moi, je me dis ça, aussi longtemps qu'on va se questionner. On va questionner notre organisation. Ça veut dire qu'on est vivant.
C'est ça, j'allais dire. Oui, ça reste vivant.
Et c'est ça. Puis moi, je pense qu'il faut la porter, la préoccupation de la question aussi. Même si on n'a pas toutes les solutions, mais ça donne une bonne indication sur le fait qu'on avance. Bon, il y a toute la question de l'espérance, hein, parce que, bon, les gens, quand ils regardent l'Église, ils peuvent regarder dépendamment de la lunette, ils disent, ben, il ne se passe plus rien, ils ne disent plus rien. Mais moi, j'y crois encore que, on l'a entendu aussi, hein, quand j'ai dit, ben, c'est deux ou trois, je serai là. Et j'y crois encore. C'est plus l'église de masse, ce sera les deux ou trois, les 10, les 15 qui sont là, qui sont témoins, puis qui sont aussi des entraîneurs pour d'autres.
Des disciples, des porteurs.
Ouais.
Avant de terminer, parce que
ça déjà? Va...
Oui, je vous l'avais dit, ça passe. Je vous l'avais dit d'entrée de jeu. Vous avez un message à livrer à Mme Paradis concernant une formation.
Oui, c'est ça. Alors, quand on disait que l'Institut pastoral a des préoccupations qu'on veut former des leaders, mais aussi on veut former des gens en accompagnement spirituel. Accompagner des gens, accompagner des communautés aussi pour mieux discerner, pour faire des meilleurs choix. Alors, à l'automne, une proposition d'une formation en accompagnement spirituel qui permet de former des gens pour 2 ans avec 7 personnes. Et habiliter les gens vraiment à l'accompagnement spirituel. C'est une chance pour nous, on travaille ça avec le Centre de spiritualité de Québec, qui nous permet de vivre ça aussi à nous. Alors, il reste quelques places, il y avait quelque chose, des communautés avec moi, 7-2-3-4-7-6-5, c'est au service du diocèse.
7-2-3-4-7-6-5. Je vous remercie énormément de votre présence à l'émission. Votre message est inspirant. Et la balle est dans le camp de ceux qui nous écoutent présentement.
Ouais. Un grand merci. Hein?
Vous avez bien compris.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Donc, c'était Mme Wendy Paradis, responsable de l'accompagnement des communautés chrétiennes, et M. Guy Lagacé, prêtre et coordonnateur de la pastorale d'ensemble.